Nous ont rejoint sur ce plateau pour en parler Mathias Tesson du service police-justice de BFM TV. Bonsoir Mathias. Christian Flech, merci d'être avec nous, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. On est content de vous avoir. Marion Ménage, avocate pénaliste à Pontoise. On est content de vous avoir également. Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Et on est toujours avec Florence Rouasse, avocate pénaliste. Et Christophe Barbier, juste avant, j'aimerais qu'on aille voir David Hunal. Vous êtes notre journaliste sur place, sur le lieu de la disparition à Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin. Que sait-on donc de ces trois gardes à vue 6 mois après la disparition donc, de Lina?
Ce que l'on sait, c'est que la première personne qui a été placée en garde à vue l'a été à 9h. Elle a été interpellée à 9h. C'est une personne qui avait déjà été interrogée au début de l'affaire, mais les enquêteurs ont noté à la fois dans son récit, mais également dans son emploi du temps, des incohérences, d'où leur volonté de l'interroger sur un temps un peu plus long. Les deux autres personnes gardées à vue sont deux personnes en couple, convoquées ce matin à la gendarmerie et placées en garde à vue à leur arrivée. Ils affirment avoir vu Lina, et là encore, les enquêteurs ont noté des incohérences. Leur déclaration ne semble pas coller aux éléments matériels du dossier, d'où leur convocation, puis leur placement en garde à vue. Il s'agit pour les enquêteurs donc de vérification, de fermer des portes. On note que ce sont les premières gardes à vue dans ce dossier depuis la disparition de Lina il y a 6 mois. Ces gardes à vue, elles peuvent durer 48 heures, se terminer donc jeudi matin. Elles peuvent aussi se terminer avant.
Merci beaucoup, David Hunal. Trois personnes donc en garde à vue, une personne, seule et un couple. Est-ce qu'on sait si ces personnes ont un lien entre elles ?
C'est toute la question, effectivement, qui se pose ce soir. C'est une interrogation légitime. Pour autant, à ce stade, on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'affirmer ni l'infirmer. On n'a que très peu d'éléments de profil sur ces trois personnes, sinon que cet homme seul dont on parle est un homme et que ce couple est âgé de 70 ans à peu près. Alors de là à établir une filiation éventuelle entre les uns et les autres, il est beaucoup trop tôt pour le faire. Mais voilà, vous avez donc ces trois personnes gardées à vue. On l'a compris avec David à l'instant, il s'agit de vérifier les emplois du temps des uns et des autres et surtout de relever certaines incohérences éventuelles. Actuellement, puisque ce sont des personnes qui ont déjà été interrogées dans le cadre d'audition.
Est-ce qu'on sait justement de quelles incohérences il peut s'agir ? Est-ce que ce sont des personnes qui affirment avoir déjà aperçu Lina au moment de sa disparition ? Qu'est-ce qui cloche dans leur témoignage ?
Pour l'homme qui est interrogé, qui est le premier à avoir été placé en garde à vue, ce qui cloche, c'est clairement son emploi du temps et d'éventuelles incohérences. Quant au couple, c'est un couple qui dit avoir vu Lina, on ne sait pas quand, mais là encore, sur ce récit-là, sur le fait qu'ils aient aperçu Lina, eh bien, ils doivent s'en expliquer en ce moment parce que les gendarmes ont noté des incohérences et leur déclaration ne semble pas coller avec les éléments matériels du dossier, pourquoi pas de la vidéosurveillance par exemple.
On pensait, Laurent Valdiguier, ce dossier au point mort. Elle a disparu en septembre dernier. 6 mois plus tard, un gros rebondissement, 3 personnes en garde à vue en même temps.
C'est vrai qu'il y a eu des fouilles en plus dans un étang cette semaine. Mmh. Et puis c'est vrai, c'est quand même vraisemblable qu'il y ait un lien entre cet homme seul et ce couple. Pourquoi c'est vraisemblable ? Parce que organiser des gardes à vue le même jour, s'il n'y avait pas de lien, pourquoi c'est lourd une garde à vue ? Il faut les avocats, le médecin, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de... Donc ça mobilise beaucoup d'enquêteurs, 3 gardes à vue simultanées. S'il n'y avait aucun lien, on peut quand même supposer que les gardes à vue auraient été découplés. Et puis c'est vrai qu'il y a 2 modes un peu différents. Il y a le couple qui est convoqué à 11h. Alors convoqué, ça veut dire qu'ils avaient reçu une convocation ou un coup de téléphone des gendarmes. Vraisemblablement, ils ont dû être mis sur écoute en attendant leur venue à la gendarmerie. C'est une technique policière assez fréquente pour justement voir un peu ce que les gens disent et comment ils anticipent leur rendez-vous chez les gendarmes. S'ils ont des choses à se reprocher, des choses à organiser avec d'autres, effectivement, c'est un moment propice. Mmh. Et puis ce matin, en revanche, ils sont allés chercher, comme disait Mathias, ils sont allés chercher l'homme d'une 40aine d'années chez lui, par surprise, même s'il avait déjà été entendu. Donc il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui les fait tiquer, quelque chose qui nécessite, en tout cas ils estiment, puisque c'est le principe de la garde à vue, le principe de la garde à vue c'est que les gendarmes vont disposer de 24 ou 48 heures, le temps est pour eux.
Le fait qu'on aille le trouver, lui en l'occurrence, le chercher chez lui par surprise, ça veut dire quelque chose ?
Ça veut dire qu'il fallait pas qu'ils se... Peut-être ils ont... Vraisemblablement, ils ont dû faire une visite, une perquisition, une visite domiciliaire, s'ils vont le chercher chez lui. Peut-être ils en profitent pour prendre un ordinateur, un téléphone, quelque chose. Ça aussi, ce sont des techniques policières, disons, classiques. Il n'y avait pas de caméra à ce moment-là, ce matin, donc personne ne sait combien de temps les gendarmes sont restés chez lui. Toujours est-il que c'est assez cohérent que cette première audition, suivie de deux autres, et puis vraisemblablement, peut-être on apprendra demain que d'autres personnes ont été entendues dans la journée. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur d'autres auditions aujourd'hui, notamment de gens proches de Lina dans le passé. Donc peut-être que tout ça a une cohérence que nous, on ne connaît pas. Comme vous disiez, Julie, l'enquête semblait au point mort, mais c'était une apparence. Oui. Les gendarmes sont une vingtaine, ils n'ont pas lâché l'affaire depuis 6 mois, on le sait.
À travailler dessus à temps plein.
Oui.
Christian Flesch, comment vous interprétez-vous les derniers rebondissements? Effectivement, 3 gardés à vue simultanément, une personne qu'on vient chercher par surprise chez lui. Qu'est-ce que ça dit, selon vous?
D'abord, je vais relativiser la surprise. 9h du matin, c'est quand même gentil. On peut venir un peu plus tôt, ce sera plus surprenant.
C'est vrai.
Ensuite, vous pensiez l'enquête au point mort parce qu'il n'y avait pas de rebondissement médiatique, mais le temps de l'enquête est complètement différent du temps médiatique. Bien sûr que depuis cet enlèvement, depuis le 23 septembre, les gendarmes ont continué à enquêter, ont accumulé un certain nombre d'événements, en travaillant d'autant plus facilement que la pression médiatique avait été beaucoup plus faible. Ça leur a donné la possibilité de faire beaucoup plus de choses tranquillement. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y a des gardes à vue, c'est les premières dans le dossier. Donc ça recouvre, comme le disait Laurent Valdiguier, quelque chose. On le saura le moment venu. Pour l'instant, on n'a pas le contenu. Il y a sans doute un lien entre les 3 personnes.
Pour vous, ça c'est une possibilité, fait que ce soit simultané.
Il y a un lien dans l'enquête. Après, est-ce que c'est un lien qui est un lien familial? Est-ce que c'est un lien sur autre chose? Je ne sais pas. Mais si le même jour, on va chercher 3 personnes, on les met en garde à vue, c'est qu'il y a un lien entre ces 3 personnes.
C'est que l'enquête avance d'une certaine manière, Marion Ménage?
Probablement. C'est pour que ça arrive aujourd'hui, après 6 mois d'enquête, qu'on ait enfin des gardes à vue, alors que pour l'instant, ce qui se passait n'avait pas de nécessité d'interpellation et pas de placement en garde à vue. On avait eu jusqu'à aujourd'hui un certain nombre d'auditions qui étaient toutes des auditions libres. C'est-à-dire des gens qui viennent à la gendarmerie, qui sont entendus, mais qui peuvent en repartir à tout moment. C'est pas le cas de la garde à vue. La garde à vue, on passe un cran dans la coercition. Les gens sont empêchés le temps d'une garde à vue. Donc on a quand même passé un cap qu'on n'avait pas passé encore depuis les 6 derniers mois.
D'ailleurs, Florence Roas, il y a donc ces 3 gardes à vue et en parallèle, il y a des témoins qui sont convoqués en ce moment pour être entendus librement. Effectivement, ce sont deux procédés très différents.
Bah oui, forcément. C'est-à-dire que concernant les gardés à vue, ils ne peuvent pas communiquer entre eux, ils ne peuvent pas ressortir et aller venir au gré de leurs souhaits, alors que quelqu'un qui est en audition libre, on peut transformer l'audition libre en garde à vue au cours de l'audition libre, mais sinon, cette personne a la possibilité de se lever, de partir. Il y a une certaine souplesse, en tout cas, dans l'audition libre par rapport à la garde à vue. Mais pour revenir à ce que disait Christian Flesch, c'est vrai que le fait qu'il y ait cette concomitance dans l'interpellation entre ces 3 personnes, effectivement, c'est pas un hasard. C'est aussi le souhait que ces 3 personnes ne communiquent pas entre elles pendant cette période de garde à vue, en fait, qu'ils soient interrogés chacun sur des éléments, peut-être qu'ils ont en commun, sur des contradictions d'emploi du temps. Effectivement, cette temporalité dans l'interpellation, elle veut dire quelque chose.
Oui, et cet aspect-là aussi, ils ne peuvent pas communiquer entre eux pendant toute la durée de l'interrogatoire.
La garde à vue, c'est aussi quelque chose qui crée des droits. Donc, une audition libre, vous venez, vous répondez aux questions, mais vous n'êtes entouré par personne. La garde à vue, c'est la possibilité pour la personne d'être assistée par un avocat, de demander une visite médicale et de demander aussi à prévenir quelqu'un de sa famille. La garde à vue, c'est aussi une façon de créer des droits, ce qu'on pourrait reprocher aux enquêteurs de ne pas faire si on faisait une simple audition libre et qu'ensuite, il y avait des éléments à charge qui apparaissaient dans le dossier.
Est-ce qu'on peut revenir, Mathias, parce que ça fait 6 mois, est-ce qu'on peut revenir sur le déroulé? Ça s'est passé donc en septembre dernier, dans le Bas-Rhin, cette adolescente de 15 ans qui disparaît, qui se volatilise.
Oui, Lina, qui est une jeune fille tout à fait ordinaire, qui ne fait pas parler d'elle, qui n'est pas connue pour des fugues, décide un matin de septembre 2023 de quitter son domicile pour aller rejoindre son petit copain qui se trouve à Strasbourg. Elle se trouve à Plaine. Elle Elle quitte son domicile aux alentours de 11h et par la suite, elle va être aperçue par deux témoins entre 11h15 et 11h30. On sait aussi que son téléphone portable va cesser d'émettre à 11h22. Le train qu'elle est censée prendre depuis la gare pour rallier Strasbourg doit partir aux alentours de midi et arriver à 12h53 précisément à Strasbourg. Elle ne montera jamais dedans, elle ne sera jamais vue sur les images de vidéosurveillance. Tout semble donc se dérouler sur, comment dirais-je, un périmètre assez restreint, 3 km, et une fenêtre de
donc
temps très courte
kilomètres, d'une demi-heure. Donc les 3 km séparent le domicile de la station. Gare.
Voilà, absolument. Elle est vue sur cette route, une route forestière, départementale, par deux témoins. Et puis, il y a cet autre témoin aussi qui dit l'avoir vue, cette fois-ci, à bord d'une voiture, côté passager, une voiture faisant route vers Strasbourg. Voilà, pour les dernières traces que l'on connaît.
De Lina, 15 ans. On va revenir sur la piste de la voiture, une Clio, je crois, qui revient régulièrement dans les témoignages. Mais juste avant, c'est son petit copain qu'elle rejoignait à ce moment-là, et c'est lui qui prévient la mère de Lina en disant « elle n'est pas arrivée ».
Oui, c'est ça, c'est un samedi matin, c'est Sainte-Blaise-la-Roche, c'est entre Strasbourg et Colmar, à peu près à l'est, à l'ouest. Et elle fait ce chemin qui lui prend une petite demi-heure pour aller à la gare. Elle part de chez elle, il est midi, et son train est à... Non, elle part de chez elle, il est 11h, et son train est à midi 4. Elle a le temps. Elle téléphone d'ailleurs en vidéo à son compagnon Tao qui l'attend à Strasbourg. Et là, ça c'est l'objet de la première phase de l'enquête, c'est de savoir si elle a été percutée par une voiture, puisqu'elle marche le long d'une départementale. On l'a vu les images, au milieu de la forêt, au milieu de rien. Il y a un témoin, il y a toujours des témoins partout. Il y a un témoin, l'ancien maire, qui lui fait un aller-retour sur cette route parce qu'il a oublié un outil chez lui. Et grâce à ça, ça a son importance, on peut dater très précisément l'intervalle de temps, puisqu'il a une petite caméra de vidéosurveillance sur son garage qui borne à peu près à 11h10 quand il le voit arriver. Donc, il est autour de 11h15 quand il la croise. Et puis, il refait le chemin en sens inverse, il n'y a plus de Lina. Donc, on sait que autour de 11h15, elle était sur cette route. Mmh. Et ce qui est très inquiétant depuis le début de cette affaire, c'est que son téléphone coupe à 11h22.
À 11h22,
alors,
il
le téléphone d'une. Ouais. Alors, les gendarmes doivent savoir comment le téléphone, ça c'est très important, comment le téléphone a été coupé. Est-ce qu'il a été éteint volontairement? Est-ce que la batterie a été enlevée? Vous savez, dans une autre affaire criminelle, il n'y a pas très longtemps, d'un mari qui avait fait disparaître sa femme et utilisé son téléphone pendant 3 mois en envoyant des photos de la dune du Pilat, vous vous souvenez, Julie? Ils ont su, grâce aux fabricants, que le téléphone était coupé régulièrement par l'intermédiaire d'un messagerie de la fonction Siri. Autrement dit, ils vont savoir, les gendarmes. Mais à 11h22, ce téléphone cesse d'émettre. Elle vient apparemment de monter dans une voiture, puisqu'il n'y a pas de traces d'accident sur cette route.
C'était une hypothèse. Pour vous, c'est une évidence.
C'était une hypothèse au début. C'est ce qu'ils ont cherché, les gendarmes, à la loupe quasiment. Ils ont fait tout ce chemin pour savoir s'il n'y avait pas eu une trace de freinage, une trace d'accident, si elle n'avait pas été percutée par une voiture qui, devant l'accident, ait pris peur, un automobiliste qui ait pris peur et qui, suite à l'accident, ait essayé de faire disparaître le corps. C'était une hypothèse. C'était même la principale hypothèse
au
début.
Sauf que pas de trace d'accident.
Aucune trace sur cette route. Pas de phare brisé, pas de trace de freinage, pas de trace de pneu dans l'herbe. Rien. Donc, vraisemblablement, elle est montée dans une voiture et concomitamment, c'est ça qui inquiète les gendarmes depuis le début, concomitamment à cette montée dans la voiture, son téléphone se coupe. Et on sait que ce téléphone se coupe, c'est anormal dans la vie de Lina. D'ailleurs, Tao, son petit ami, essaye de la joindre,
mais il n'y arrive plus
et il panique tout de suite. Puisqu'il sait, lui, Tao, que le téléphone de Lina coupé, c'est extrêmement rare. Et puis, on peut même ajouter que, vraisemblablement, alors qu'elle va passer la journée à Strasbourg, son téléphone n'est pas en panne de batterie à 11h du matin.
Ouais.
Donc, c'est vrai que ça interroge. Ça interroge qu'elle soit montée dans une voiture et qu'elle ait soit coupée elle, soit que quelqu'un lui ait fait couper le téléphone.
Christian Flèche, là-dessus, sur la question du téléphone. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la police judiciaire de Paris. C'est un élément qui interpelle, ce téléphone qui cesse d'émettre à 11h22 précisément, alors qu'elle est supposée monter dans le train et passer la journée avec son petit ami.
L'intérêt du téléphone, c'est les investigations numériques. Ça se fait sur la base du téléphone de la personne qui a disparu, bien sûr. Donc, les conditions qu'évoquait Laurent Valdiguet, ce qu'elle a fait avant aussi. Et puis le téléphone des autres et les liens qu'on peut faire entre tout le monde dans une zone qui est quand même peu couverte par les relais, mais en même temps où il y a peu de personnes qui passent. intéressant de pouvoir faire des rapprochements. Et aussi, ça peut faire partie des investigations qui ont eu lieu depuis 6 mois, qui sont des investigations purement techniques, qui prennent beaucoup de temps.
Le petit copain Tao, dont on a beaucoup parlé pendant un temps, qui faisait d'ailleurs partie des suspects, tout le monde est un peu suspect dans ces cas-là au départ, mais cette piste-là du petit ami est écartée à l'heure où on parle ?
En tout cas, il ne fait pas partie des personnes qui sont gardées à vue en ce moment. D'ailleurs, il n'a jamais été placé en garde à vue, ce jeune homme. Effectivement, au tout début de l'enquête, comme c'est la coutume, les enquêteurs s'intéressent à l'entourage affectif de la victime. Donc, la rumeur a pu le faire considérer à un moment donné comme un suspect potentiel, mais rien n'incrimine ce jeune homme à cette heure.
Et il ne fait donc pas partie des gardées à vue. Il y a d'autres recherches qui ont été menées aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Il y a les gardes à vue et en parallèle, il y a des fouilles qui se sont poursuivies autour d'un étang, je crois, Mathias.
Oui, c'est vrai qu'il y a une concomitance d'événements entre ces gardes à vue, ces auditions et ces recherches qui sont menées au sol, des recherches qui ont été menées dès hier et qui ont concerné un plan d'eau qui est situé à quelques minutes seulement de plaine du secteur où disparaît la jeune Lina. Des recherches qui se sont poursuivies encore ce matin, des plongeurs donc, qui n'ont rien donné à cette heure. En tout cas, rien n'a été porté à notre connaissance. C'est pas la première fois que des points d'eau et des étangs, des petits lacs sont sondés, puisqu'il y en a de nombreux autour de du secteur où disparaît la jeune fille.
Il y a cet étang et il y a un puits, je crois, qui a
été... Oui, c'est au même endroit.
Tout ça, c'est dans un tout petit périmètre. C'est à 7 minutes en voiture. Alors, c'est une région accidentée de forêt et tout ça, mais c'est un petit périmètre. Autrement dit, on a l'impression que les gendarmes cherchent dans une petite zone.
Ils cherchent dans une toute petite zone. Quelles sont les pistes ? On est donc 6 mois plus tard, il doit bien y avoir des hypothèses. Vous évoquiez tout à l'heure une Clio, une voiture en tout cas. On se souvient qu'il y a quelques mois, il y avait des perquisitions qui étaient menées sur de nombreux véhicules qui appartenaient tous au même genre de véhicule, au même type de véhicule.
Oui.
Pourquoi la piste de la voiture ?
Parce que plusieurs témoignages à l'époque laissaient penser qu'un véhicule... alors, de marque Clio, effectivement, de couleur plutôt sombre, pouvait être impliqué dans cette disparition. Alors évidemment, pas le véhicule, mais le conducteur qui va avec. Et les gendarmes mobilisés sur cette affaire se sont aussi intéressés à un homme, justement, qui circulait à bord d'une Renault Clio et qui avait, dans le passé, potentiellement déjà abordé des jeunes filles. Deux mails avaient même été envoyés en janvier dernier aux parents d'élèves de l'ancien collège de Lina, ainsi que d'autres établissements du secteur, avec ce même dénominateur commun à chaque fois, ce véhicule de couleur sombre. On se souvient effectivement...
Pour savoir si cet homme à bord de la Clio avait abordé d'autres filles.
Aborder d'autres filles et éventuellement si c'est à l'intérieur de son véhicule, si dans l'habitacle de son véhicule, il pouvait y avoir éventuellement des éléments intéressants, des éléments pileux, de l'ADN, du sang, pourquoi pas, de la sueur. On se souvient qu'il y avait au total une dizaine de véhicules perquisitionnés et les domiciles des propriétaires avaient également été vérifiés à l'époque. Tout ça a été envoyé ensuite à l'IRCGN, Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Sans qu'à ce stade, aujourd'hui, tout ça ait pu permettre de découvrir quoi que ce soit.
Mais on a l'impression quand même que cette piste-là, elle est étudiée sérieusement. Vous l'évoquiez, la piste, qu'elle soit montée de son plein gré ou non, à bord d'une voiture, Florence Roys.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que la garde à vue, elle va apporter des éléments. Il va probablement y avoir des confrontations, peut-être, entre ces trois personnes qui ont été placées en garde à vue. Il y a eu sûrement des saisies de matériel, notamment l'interpellation du monsieur à 9h du matin a sûrement fait l'objet effectivement de saisies de matériel qui vont être exploitées, peut-être des portables, des ordinateurs, des choses qui peuvent parler. Voilà, donc il y a fort à parier qu'à l'issue de cette garde à vue, soit il n'y a aucun élément et auquel cas ça parle, j'allais dire, parce que finalement on ferme les portes, soit on a des éléments, ça apporte des éléments parce qu'ils vont parler, ils vont... il va y avoir des révélations.
Et dans ce cas, Marion Ménage, s'il y a des nouvelles informations qui émergent après ces gardes à vue, que se passe-t-il ? On dit qu'ils peuvent être gardés à vue jusqu'à jeudi matin.
C'est ça, c'est 48 heures maximum. Donc 9h du matin, 11h pour ceux qui ont démarré leur garde à vue à 11h. Il faut qu'avant jeudi matin ou jeudi matin à l'aube, de toute façon, une décision soit prise. Il n'y en a pas 50 possibles, globalement. Soit ces gens rentrent chez eux parce que finalement, les gardes à vue n'ont rien donné. Soit il y a suffisamment d'éléments pour qu'ils soient plus intéressés que ça dans ce dossier. Et à ce moment-là, ils seront présentés au juge d'instruction, puisqu'il y a une information judiciaire qui est ouverte dans ce dossier. Il y a un magistrat instructeur qui est en charge du dossier. ça peut permettre qu'il soit présenté et éventuellement mis en examen si on a des indices graves ou concordants qui laissent supposer qu'ils sont impliqués.
Ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans sa disparition. Vous souhaitiez ajouter un mot, Mathias Tesson ?
Non, il y a aussi le statut de témoin assisté qui peut parfois être utilisé dans ce genre d'affaires, mais on saura assez vite.
C'est quoi la différence alors quand on est témoin?
C'est un statut assisté intermédiaire entre la personne, je parle sous le contrôle de.
Des avocates, attention à ce que vous dites. Il y en a deux sur le plateau.
Statut intermédiaire entre celui du mis en examen et celui.
Du simple témoin.
Voilà, simple témoin et du mis en examen.
Et il est assisté, c'est-à-dire assisté par un avocat. Donc déjà, il a accès au dossier, ce qui n'a pas un témoin lambda.
Lambda. Christian Flèche.
Oui, avant jeudi matin, il y aura la décision demain matin de prolongation éventuelle de la garde à vue qui a été prise à 9h du matin pour le premier et à 11h du matin pour les autres. Ce sera une décision du juge qui donnera déjà une coloration au contenu du dossier. Est-ce qu'il y a suffisamment pour justifier le fait qu'on garde encore quelqu'un 24 heures de plus ou pas ?
Ou au contraire, qu'on les libère pour se réserver encore un délai de garde à vue potentiel plus tard avec d'autres éléments.
Mais c'est plus compliqué parce que maintenant, je pense qu'on a la garde à vue, elle est faite surtout à la fin des investigations sur une personne pour confronter les éléments qu'on a. La garde à vue, elle apporte plus grand-chose dans la mesure où ça a tellement de paperasse, tellement de contraintes que on est là pour prendre des déclarations de la personne. Mais souvent, on a suffisamment d'éléments pour déjà l'impliquer. Il faut voir que le temps de l'enquête, d'abord, c'est le temps des constatations. Et c'est pour ça que la constatation que vous évoquiez dans les véhicules, c'est la constatation qui est faite pour éviter que des éléments d'ADN, par exemple, disparaissent. Mm-hmm. On ne peut pas attendre 6 mois pour espérer trouver quelque chose dans une voiture. On peut trouver, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, d'abord, les constatations, ça, c'est l'immédiateté. Donc, il y a eu des pistes qui ont été faites autour des véhicules. On a récupéré les véhicules pour trouver des éléments d'enquête. Et ensuite, il y a les investigations. Et ces investigations, elles débouchent aujourd'hui sur des gardes à vue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, quand même, accroche un peu. Ouais. Et puis, on peut espérer qu'il y aura peut-être d'autres choses plus tard.
Alors, justement, sur ces gardes à vue, on va aller retrouver David Hunal. On le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, 3 personnes qui sont donc placées en garde à vue, David. 6 mois après la disparition de Lina, 3 personnes toujours en garde à vue. Et on disait sur ce plateau, elles peuvent courir jusqu'à jeudi matin, ces gardes à vue.
Exactement. La première garde à vue, elle a commencé ce matin à 9h. C'est un homme qui a été interpellé. Un homme qui avait déjà été entendu auparavant, au début de l'enquête, par les enquêteurs. Mais ils ont noté, ces enquêteurs, à la fois dans son récit, mais aussi dans son emploi du temps, des incohérences, d'où leur volonté d'interroger cette personne un peu plus longuement. Les autres gardés à vue sont 2 personnes en couple, un couple de septuagénaires, convoqués ce matin en gendarmerie et placés en garde à vue à leur arrivée. Ils affirment avoir vu Lina. Là encore, les gendarmes ont noté des incohérences. Leur déclaration ne semble pas coller aux éléments matériels du dossier, d'où leur convocation et leur placement ensuite en garde à vue. Il s'agit pour les enquêteurs donc de vérification, de fermer des portes. On note donc que ce sont de premières gardes à vue dans ce dossier 6 mois après la disparition de Lina. Vous l'avez dit, elles peuvent durer jusqu'à 48 heures, donc jusqu'à jeudi matin, mais elles peuvent aussi s'arrêter avant. Un dernier élément, Julie, ces gardes à vue, elles suscitent ici, dans les communes aux alentours, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir aussi. Il y a beaucoup de personnes qui espèrent que ces gardes à vue vont faire avancer l'enquête, et beaucoup d'attentes parce qu'ils attendent de savoir ce que vont donner ces gardes à vue.
Merci beaucoup, David, avec Louis Gagnon. Justement, je voulais qu'on écoute l'un de ses habitants. Il s'appelle Robert. Nos équipes sont donc sur place. Il attend beaucoup. Il attend beaucoup de ce rebondissement, de ces nouveaux éléments. On l'écoute.
Ah ben, ça fait déjà de l'espoir que ça délie un peu les langues. Et j'espère que ça va un peu remuer. Ça concorde avec le passage ici, mais c'est entre, voilà, ce qui s'est passé entre, c'est ça qui m'inquiète. Et puis après, bien sûr, puis ne pas savoir si j'avais su tout de suite il y aurait eu un signe de détresse, machin, ça m'aurait plu. Tout de suite, j'étais devant le gendarme, hein, c'est la première des choses que je faisais. Mais là, tout souriant, vraiment, comme vous dites, toujours connu, quoi. Ah ben, j'espère qu'on la retrouve vivante. Voilà. De tout mon cœur.
Voilà, le témoignage de Robert, en l'occurrence, il est important aussi parce qu'il est l'un des témoins qui dit avoir vu Lina le jour de sa disparition.
Oui, ben, il est celui qui l'a vu dans une voiture. Mais Lina, tout le monde la connaît là-bas, c'est ça. Il l'a vu, cette silhouette, dit-il, passager d'une voiture. C'est pour ça que dans l'émotion, on le voyait dans tous les reportages, l'émotion est très très forte.
Et il a été entendu par les gendarmes. Hein. Cet homme, voilà, il a renouvelé son témoignage devant les gendarmes dans le cadre de cette enquête.
Quelle piste, Christian Flech, vous semble la plus plausible? Je rappelle, ancien directeur de la police judiciaire de Paris, j'imagine que vous sentez un peu les choses. Est-ce que celle de qu'elle soit montée dans une voiture, c'est ce que tout le monde semble dire? Est-ce que c'est ça?
Très honnêtement, je suis ancien directeur, c'est sûr. Je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas être voyante et pouvoir élaborer des pistes. Je pense que, de ce que j'écoutais, on peut imaginer que sur les investigations techniques qui ont été faites et qu'on peut lier aujourd'hui avec des fouilles, par exemple, il a pu y avoir dans le comportement de ces personnes, les trois qui sont en garde à vue, des stationnements dans ces lieux-là qui ont été fouillés aujourd'hui, par exemple, qui ont surpris les enquêteurs par leur durée, par exemple. Ce qui peut justifier que dans le même temps où ils sont en garde à vue, on va fouiller ou sonder des endroits. Mmh. Voilà, ça c'est une piste immédiate. Ensuite, je suis sûr qu'il y a d'autres éléments. Parce que le boulot des enquêteurs, comme ça a été évoqué, c'est les constatations, on accumule un certain nombre d'éléments, ensuite on travaille et on ferme petit à petit des portes. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, on le dit, des portes sont fermées au travers d'auditions. Peut-être elles aboutiront demain, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais les portes sont fermées et il y en a sans doute d'autres derrière. Il y a beaucoup de travail qui ont été faits par les gendarmes, donc les portes continueront derrière. Il y a les véhicules, ça a été évoqué, c'est une piste. Ça veut dire des recherches énormes sur des fichiers d'immatriculation pour arriver à travailler sur des personnes. Il y a les investigations techniques sur la base des relevés de téléphone qui ont borné dans la zone. Voilà, mm-hmm. Tout ça, c'est des pistes. Mm-hmm. Qui peuvent aboutir plus tard.
Et les trois gardés à vue, effectivement, on le disait, qu'est-ce qu'on a pu saisir chez eux?
Alors, ceux qui sont venus, on leur a saisi ce avec quoi ils sont venus, sans doute leur téléphone, par exemple. Ensuite, c'est une perquisition qui est faite classiquement, si ça a été fait à 9h du matin. Et ce que cherchent les enquêteurs, c'est tout ce qui est technique, numérique.
Alors justement... On avait l'impression, nous, de l'extérieur, que l'enquête était au point mort. Mais non, ça fait 6 mois que des enquêteurs travaillent sur cette disparition. Lisa Hadef, comment se sont organisés les enquêteurs sur ces 6 derniers mois?
Lina disparaît donc le 23 septembre 2023 et immédiatement une enquête démarre. D'abord, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte, mais très vite, le procureur de la République annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Sur le terrain, tout de suite, un hélicoptère, des drones, des dizaines de gendarmes d'investigation. Les moyens mobilisés pour retrouver Lina sont conséquents. Aucune piste n'est écartée. 2 jours après la disparition de Lina, sa mère prend la parole. Le lendemain, son père aussi et son petit ami également, qui dit avoir perdu son téléphone le jour de la disparition de Lina dans la bouche d'égout d'une usine désaffectée, alors qu'il est le dernier à avoir échangé avec elle par SMS. 29 septembre, nous sommes 6 jours après la disparition de Lina. Un témoin dit avoir vu Lina dans une voiture avec un homme en direction de Strasbourg. Les gendarmes lancent une vaste opération de fouille, des maisons et des voitures notamment, même les bennes d'une déchetterie sont examinées. Et l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui dispose de moyens d'analyse pointus, vient de région parisienne pour aider au prélèvement, dans l'hypothèse où le propriétaire d'une maison l'aurait nettoyée de fond en comble pour faire disparaître toute trace de Lina. Le 6 octobre, une maison à 3 km de chez Lina est fouillée. Les gendarmes analysent les caméras de surveillance d'un étang proche de là où Lina s'est volatilisée et le fameux téléphone du petit ami est retrouvé.
Ces téléphones qui sont cruciaux, Lisa, pour faire avancer l'enquête.
Oui, les enquêteurs sollicitent les opérateurs pour trouver les numéros qui ont borné sur une zone donnée à une heure précise. Ensuite, ils épluchent l'identité de chacun de ces numéros et fouillent leur environnement numérique, c'est-à-dire les recherches internet ou les réseaux sociaux par exemple. Et au fur et à mesure des mois qui passent, les enquêteurs continuent les vérifications de terrain, même loin du retentissement médiatique, des auditions de témoins, des fouilles, du porte-à-porte, l'analyse des emplois du temps de chaque habitant le jour de la disparition de Lina, les sondages, des plans d'eau, mais aucune piste ne permet de retrouver la trace de Lina. En janvier, les enquêteurs apprennent que Lina avait porté plainte pour viol en 2022. Et ils apprennent aussi, grâce à un témoignage, qu'un homme de 20 ans était présent à une aire de jeu courant septembre 2023, le mois où a disparu Lina. Medina, ayant potentiellement abordé des jeunes filles. Il est arrivé et reparti dans une Clio grise, le modèle de voiture notamment ciblé pendant les fouilles. Et aujourd'hui, l'information judiciaire reste donc ouverte contre X pour enlèvement et séquestration. La cellule d'enquête est toujours active et des gendarmes sont dédiés exclusivement à l'enquête sur la disparition de Lina. Et selon une source proche de l'enquête, c'est une enquête à 360 degrés qui nécessite des investigations sur le terrain. On ne se ferme aucune piste. Fin de citation.
Merci beaucoup, Lisa. Une vingtaine d'enquêteurs qui travaillent sur le dossier, des caméras de vidéosurveillance qui sont quand même dispersées un peu dans cette zone. On est quand même toujours un peu sidéré qu'à notre époque, avec tous les moyens dont on dispose, on puisse se volatiliser comme ça. C'est une réflexion qu'on se fait au sujet du petit Émile, qu'on se refait là pour Lina. On peut disparaître et ne pas laisser de traces et voilà, personne peut nous tracer. C'est encore le cas aujourd'hui.
Oui, c'est toujours possible de disparaître. Si c'est volontairement, c'est toujours possible aussi de l'envisager. On parle depuis longtemps de Xavier Dupont de Ligonnès qui a disparu. Lui, manifestement, s'est organisé. Après, il y a des gens qui sont enlevés, et donc là, c'est autre chose. Mais on retrouve aussi des personnes beaucoup plus tard. Donc, on a de plus en plus d'environnements numériques et la police, maintenant, il faut saluer d'ailleurs le travail que font les gendarmes depuis 6 mois, la police travaille maintenant dans les trois dimensions, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'environnement numérique qui est devenu très important.
Il faut se souvenir qu'on est aussi dans une zone assez rurale, hein, avec des chemins de forêt, des petits villages, donc qui sont pas forcément équipés en vidéoprotection, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on perd la trace de Lina comme cela.
Non, il faut préciser une chose aussi. Tout à l'heure, Christian Flech disait que dans le cadre d'une garde à vue, le gardé à vue a des droits, certes, mais le fait que justement qu'il y ait ces trois gardes à vue qui interviennent maintenant, c'est qu'il y a la volonté aussi des enquêteurs de mettre un petit coup de pression, parce que effectivement, il y a des droits, mais les droits sont quand même, la personne ne peut pas aller venir, elle est sous contrainte, elle a accès à son avocat 30 minutes toutes les 24 heures dans un entretien en tête à tête. À part ça, effectivement, l'avocat l'assiste pendant toute la durée de la garde à vue, audition et confrontation, mais l'avocat n'a pas accès au dossier. Donc, il ne sait pas du tout, il n'a pas connaissance des éléments qu'ont les enquêteurs, aussi bien dans le cadre des éléments qui ressortent des investigations antérieures, mais également de celles qui peuvent intervenir pendant la garde à vue, audition, perquisition et exploitation du matériel en cours de garde à vue. Donc, en fait, l'avocat, aux côtés du gardé à vue, navigue à vue, c'est le cas de le dire.
Voilà. Que se passe-t-il, Marion Ménage, d'ailleurs, précisément, nous qui... Enfin, peut-être, en tout cas, moi, j'ai jamais assisté à une garde à vue, j'ai jamais été gardée à vue. Qu'est-ce qui se passe concrètement pendant ces heures de garde à vue?
Oui, parce que le premier élément, quand même, quand on est en garde à vue, c'est pas de se dire « chouette, j'ai des droits, je vais avoir un avocat ». Le premier élément, quand on est placé en garde à vue, c'est « je suis privée de liberté, je suis privée de tout moyen de communication avec l'extérieur, je n'ai plus de téléphone portable, on m'enlève mes lacets, on m'enlève ma ceinture, et on me boucle dans une espèce de geôle qui fait 2 mètres sur 2 et on vient m'en sortir une fois de temps en temps quand on a besoin de m'interroger. C'est quand même ça la garde à vue. Le but de la garde à vue en France, c'est d'abord d'avoir des aveux. On va pas se mentir. Oui. Si on n'avait pas besoin d'avoir les aveux des gens, on les mettrait pas en garde à vue. Faire des investigations de téléphonie, faire des perquisitions, ça se fait très bien sans avoir personne dans une geôle de garde à vue. Si on met les gens en garde à vue, c'est qu'on veut avoir leur déclaration. Sinon, on le ferait
et
pas.
Et alors, comment on s'y prend pour tenter d'obtenir des infos?
C'est là où je disais que, sans doute, depuis les réformes de garde à vue les plus récentes, la garde à vue n'a plus le même objectif. C'est-à-dire qu'on peut accumuler un certain nombre d'événements, d'éléments à charge, et demander aux personnes qui sont en garde à vue, à ce moment-là, de donner leur position. La personne peut nier, mais parfois, il y a suffisamment d'éléments pour finalement que leur déclaration importe peu, si ce n'est pour montrer leur mauvaise foi. Et c'est le rôle après des avocats de montrer l'intérêt de dire la vérité compte tenu des charges qui sont accumulées. Donc c'est un peu différent dans la mesure où le temps de garde à vue, compte tenu de toutes ces contraintes, ne permet pas vraiment d'avoir un rapport très simple avec la personne.
Moi, j'ai une question. Est-ce que quand on est directeur d'enquête, une date anniversaire, comme c'est le cas, là, ça fait 6 mois, c'est souvent des dates importantes où un enquêteur ou un groupe d'enquête aime bien procéder à des gardes à vue ou tenter des choses dans une enquête. Est-ce que ça fait partie
de la réflexion? 6 mois, je suis pas sûr que ce soit
un an.
Ah non, ça peut toujours jouer. Il peut y avoir des sujets, par exemple, On peut imaginer qu'au bout d'un an, on aille sur le cimetière, par exemple, pour se recueillir. Et là, il peut y avoir nécessité d'aller observer ce qui s'y passe, bien sûr.
Est-ce que d'ailleurs, 6 mois après, on sent que voilà, l'enquête n'avance pas aussi vite qu'on aimerait. Est-ce qu'il y a un moment, au bout de 6 mois, où on se dit bon, bah, peut-être qu'il faut changer de méthode, changer les enquêteurs, il faut du renouveau, comment on fait ?
Mais c'est vous qui dites que l'enquête n'avance pas.
Oui, pardon.
Votre consoeur vient d'expliquer
tout ce qui a été fait. Le fait est qu'on ne l'a toujours pas retrouvé, en tout cas, et qu'on a peu de pistes.
On ne l'a pas retrouvé, bien sûr. Vous êtes impatiente, c'est normal, tout le monde. Donc, c'est effectivement normal, mais l'enquête bouge. L'enquête bouge, mais discrètement.
Donc, on ne change pas les méthodes, on ne change pas les enquêteurs après.
On ne va pas changer les enquêteurs parce qu'il y a quand même la connaissance du dossier. Après, on peut trouver des techniques, on peut essayer d'autres pistes, on peut avoir recours à d'autres techniques. Vous voyez, j'ai écouté attentivement, il y a l'utilisation d'un drone pour survoler un plan d'eau. Ça, c'est nouveau, c'est très intéressant.
Regardez l'affaire Grégory, où on espère 40 ans après de nouvelles techniques d'ADN. Oui. Après, nous avons fait le coup des timbres-poste. Bon, y a une piste quand même qui me semble, moi, définitivement fermée. C'est l'idée de la fugue volontaire avec quelqu'un qui aurait eu rendez-vous avec elle dans la forêt avec un véhicule pour se volatiliser volontairement et je coupe mon téléphone et nous allons vivre une fugue amoureuse. Ça me semble totalement exclu maintenant.
Ouais, au bout de 6 mois, ça commence à faire un peu long quand même.
Vu la relation avec sa mère en plus.
Elle aurait donné signe de vie, elle aurait bien sûr.
Justement, sa mère, on voulait l'écouter. C'était le 22 mars dernier, elle a été très présente au début lors de sa disparition. Elle est revenue devant les caméras le 22 mars en lançant un appel. On écoute la maman de Lina.
On est 6 mois plus tard maintenant. Si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit, a oublié de dire quelque chose, un détail, eh bien, il faut le dire. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Alors vraiment, j'encourage toutes les personnes qui ont des choses à dire, à témoigner. Ou des choses peut-être qu'ils ne se souvenaient pas. Ou peu importe. Le moindre indice... Et bon à prendre, en fait.
C'est toujours terrible d'écouter la maman. Ça peut marcher dans certains cas, ça, ces appels à témoins.
En fait, dans ces témoignages, les gens ne savent pas ce dont ils disposent. Ne pas avoir vu une voiture à tel endroit, ça peut être un élément. Et puis le piège dans ces enquêtes, le pire du pire, c'est un témoignage faux, mais pas faux volontairement, mais qui va fermer une porte à tort. Dans l'affaire Grégory, il y a une voisine qui dit j'étais à tel endroit, j'ai jamais vu passer de voiture. Et en fait, on sait des années plus tard qu'elle était avec son amant à cet endroit-là et qu'elle a pas voulu dire qu'elle avait vu passer une voiture. Et puis quand des années plus tard, l'amant a dit ben oui, on a vu passer une voiture verte, ils auraient dit ça le premier jour, l'affaire Grégory aurait été tout à fait différente. Donc en réalité, ce qu'il faut peut-être au bout de 6 mois, c'est reprendre à zéro, reconsidérer certaines pistes parce que ce sont des enquêtes les plus difficiles, ces enquêtes sans scène, sans corps, enfin, ce sont les enquêtes criminelles les plus difficiles. Et puis, contrairement à ce qu'on croit, parce que c'est le grand secret de la police et de la gendarmerie, qui ne tiennent pas vraiment de statistiques de ça, il y a des gens qui se volatilisent, sans qu'on ait jamais d'explication. Il y en a entre 12 000 et 18 000 des adultes. Mais sur ce stock, il y en a plein qui reviennent, il y en a certains qui se suicident, il y en a qui font des mauvaises chutes, mais on sait qu'il y a un jour sur deux, certainement en France, il n'y a pas de statistiques, on ne le saura jamais, un jour sur deux, il y a un meurtre parfait. Oui, ça fait...
Un jour sur deux, il y a
quelqu'un qui disparaît en France, vraisemblablement sous l'effet d'un homicide. Ça s'appelle un meurtre parfait.
Oui, c'est pas toujours vrai, parce que vous pouvez ne pas retrouver la personne, parce que vous n'avez pas fait le lien entre la personne qui a disparu et un corps qu'on a retrouvé. Alors, on retrouve beaucoup de corps, par exemple, dans la Seine.
Une centaine.
Et donc, il faut arriver à faire ce rapprochement.
Oui, ça, c'est les morts sous X. Comme il n'y a pas les parquets sont
obligés. L'ADN maintenant permet de faire des rapprochements, mais c'est une recherche qu'on doit faire au niveau national.
Oui. Ça fait quand même beaucoup, Julie.
Ça fait beaucoup. Oui. On le rappelle donc, 3 personnes en garde à vue à l'heure où on parle. On verra demain si ces gardes à vue sont prolongées en fin de matinée, ce qui nous donnera un peu une idée déjà des éléments. Pardon, Marion Ménage ?
Non, je dis vu l'heure,
A priori, c'est prolongé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien pourquoi elles n'auraient pas été levées ce soir si elles devaient être levées demain matin à 8 heures. Enfin, sauf à ce qui se passe.
Ce qui voudrait donc dire que les enquêteurs disposent d'éléments qui, tout du moins, les titillent et qui font que la garde à vue est donc prolongée. On verra ce qui se passe donc jeudi matin. C'est donc la fin de la garde à vue. Merci beaucoup à tous pour toutes ces précisions, ces éclairages.